Rebonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Fréquence Mistral à Briançon, bien sûr. Je suis avec Laura. Bonjour Laura.
Bonjour à tous. Bonjour Suzy.
Et je suis aussi avec Monsieur Jean Sarameya, qui est venu régulièrement cet été à Fréquence Mistral. Il est poète, géographe, historien retraité, auteur de livres. La liste est grande. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Par la magie des ondes, très heureux de vous retrouver.
Oui, merci beaucoup. Comment c'était la fin de votre été? Bien passé?
Beaucoup d'activités, que ce soit en Provence. Et puis, j'ai donné 4 conférences historiques au Canada oriental. Très beau souvenir.
Parce que vous venez d'entrer du Canada.
Oui, à quelques jours.
Ouais, c'est intéressant comme pays. Hein.
Entre Toronto et Québec, les 4 villes. Toronto, 6 millions d'habitants. Hein.
Ah oui.
Montréal, 4 millions, je parle de l'agglomération. Mm-hmm. Puis Québec, la ville historique, là, dans les couleurs d'automne, c'est beau souvenir.
C'est comme ici, avec les mêmes couleurs
Ce ne sont pas les mêmes arbres, donc... Ouais. Ce sont surtout les érables qui donnent le rouge vif dans l'émeraude des bois.
D'accord. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de M&M, les marmottes et les mélèzes, non?
Oui.
Moi, je veux tout savoir sur les marmottes. Où vivent-elles?
Oui. Alors, elles ne sont pas en plaine. Hein. Elles sont, à l'heure actuelle, dans nos climats, elles sont exclusivement en montagne. Donc, les Alpes... Mais elles ont été introduites également dans le Massif central et dans les Pyrénées.
Ah, voilà.
Mais c'est vraiment un rongeur, c'est le plus gros rongeur des Alpes. C'est un rongeur de montagne, au-delà de 1200 mètres. Et j'en ai vu une à 2600 mètres au-dessus du col du Galibier.
Qu'est-ce qu'il faisait?
Elle prenait le soleil, elle me regardait venir et je me demandais qu'est-ce qu'elle pouvait bien manger parce qu'il n'y avait pas la moindre herbe à proximité. Je parle de ça au mois d'août.
Et où sont-elles en ce moment?
Alors en ce moment, elles hibernent, elles sont dans leur galerie depuis les premiers jours d'octobre. C'est entre le 1er et le 5, que, quelle que soit l'altitude d'ailleurs, elles rentrent dans leur galerie. Les scientifiques pensent que c'est la diminution de la durée du jour, pas tellement la température qui provoque l'hibernation, c'est la diminution de la durée du jour. Elles ont creusé, entretenu ces galeries spécifiques pendant l'été. Elles ont mis un énorme bouchon de terre mélangée à des herbes, un bouchon de plus d'un mètre ou 1,50 m de long, pour bien se protéger du froid. Et elles ont aménagé des sortes de chambres, entre guillemets, dans la terre, bien feutrées d'herbes ou de poils ou autres. Et c'est là qu'elles ont commencé à hiberner jusqu'à fin mars.
Et ils descendent en altitude pour hiberner?
Ah non, c'est là où elles sont. Elles ont leur terroir. Okay. Okay. Et c'est vraiment là où elles sont. Sauf que quand on voit des sorties de galeries, ça peut être des simples galeries assez courtes de précaution pour pouvoir se mettre sous terre si un prédateur arrive. Les galeries d'hibernation font plusieurs mètres dans le sous-sol et elles sont bien précises.
Et ils vivent en famille?
Ce sont des groupes.
Ils hibernent tout ensemble.
Exactement. Okay. Peut-être pour se tenir un peu chaud. Mais de toute façon, c'est, tout leur métabolisme change. Hein. Les battements de cœur sont réduits à très peu. Leur température peut même descendre à 5 degrés. On imagine. Hein. Mais par contre, elles se réveillent de temps en temps. Certains disent lors du changement de lune. Elles se réveillent de temps en temps, elles font leurs petits besoins.
Et ils sortent quand ils se réveillent?
Non.
Ils restent, ils peuvent pas sortir.
L'hiver, il peut y avoir 1 mètre de neige par-dessus. Hein.
Et comment ils ferment la galerie après? Hein?
Par des gros bouchons d'herbe.
D'herbe qu'ils ont mis déjà, tout était préparé. Comme vous avez dit.
Oui. Ouais. Et alors, elles sortent fin mars, là, elles sont très maigres. Quand elles entrent dans leur galerie, elles font autour de 5 kilos. parce qu'elles se sont gavées d'herbe pendant l'été. Mm-hmm. Et quand elles sortent fin mars, elles font plus que 2 kilos, hein, quelques fois moins. Elles ont consommé leurs réserves pendant tout l'hiver. Et alors là, elles sortent fin mars, il y a encore de la neige. Il y a un peu d'herbe sèche à certains endroits. Elles n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et elles sont très vulnérables parce que des taches brunes sur la neige... Un aigle de passage se régale.
Oui, c'est ça la question. Quels sont le prédateur?
Il y en a deux. Il y en a deux principalement, les aigles. On pense que l'été, 80 à 90% de la nourriture des aigles, ce sont les marmottes. Les aigles arrivent sans faire de bruit, ils rasent le versant, et souvent la marmotte n'a pas le temps de s'échapper. Et puis le renard. Alors, d'accord. Les renards sont des prédateurs terribles. Cet été, sentier que je connais bien sous le Prorel, j'entends des cris, il y avait au moins 2 cris par seconde, des cris stridents de marmottes. Je me dis, ça ne peut pas être moi, parce qu'elles ne peuvent pas me voir là où je suis. Qu'est-ce que c'est? Et je vois une sorte de tache rousse dans l'alpage. Alors, je suis allé tout droit et j'ai vu le renard qui devait chercher un mulot, je pense, et qui a détalé, c'était très beau d'ailleurs. Et 10 secondes après, les marmottes ne criaient plus. C'est vraiment
Il a mangé combien alors?
Non, il avait mangé un mulot ou quelque chose comme ça. D'accord. Par contre, les marmottons sont vulnérables. Hein. Une fouine ou autre peut très bien en emporter. C'est petit. Hein. Voilà.
Et d'où vient le nom?
Oh, alors c'est... terme latin, mus montanus, c'est le rat de montagne. C'est pas très beau comme image, mais enfin, ça viendrait de là.
C'est mignon quand même. C'est
oui.
Beau. Ça
oui.
fait peluche.
Oui, si on peut dire. C'est parents de l'écureuil, hein. Ils sont de la même famille.
C'est mignon.
Ouais, mais ils sont un peu rares quand même. Hein. Et
ça ressemble au chien de prairie. C'est une parenté.
Je ne sais pas. Bon, les peluches au Canada, ce sont les castors, hein, principalement. Il y en a de toutes les tailles, comme ici, il y a des peluches de marmottes, très sympathiques à regarder. Voilà.
Mais juste pour retourner sur les prédateurs, un aigle, quand il prend une marmotte, il va le prendre dans son bec et il va voler avec.
Non, les cerfs. Non, il attrape avec les cerfs.
Hein. Les cerfs. Ah oui, avec les griffes.
Avec les cerfs, et il l'emmène.
Il l'emporte sur son air et puis ils en font des petits morceaux pour nourrir les jeunes, hein, pour se nourrir lui-même.
D'accord. Je ne sais pas combien d'aigles on a ici.
Alors ça, il faudrait demander à des scientifiques. Oui, on doit demander la LPO.
Mais ça pose un problème. Mais on a une grande population de marmottes.
Ah oui. Ouais. Oui. Là, je vois rien que Serge Chevalier, que je connais bien, entre le haut du Mélezin et le haut du téléphérique, il y en a des dizaines, hein, vraiment des dizaines, en plein été. Voilà. Au Granon aussi, il y en a pas mal. Elles sont moins farouches au Granon. Il faut dire qu'elles craignent un petit peu les promeneurs qui viennent avec des chiens, parce que alors, les chiens, ils les coursent. C'est un amusement, je ne crois pas qu'ils leur fassent de mal.
Ouais, ouais.
Voilà.
D'accord.
Et sont-elles toutes semblables?
Alors, au premier coup d'œil, non, elles sont très semblables. Le dos est un petit peu plus foncé, c'est un brun roux. Au premier coup d'œil, on ne peut absolument pas différencier les mâles et les femelles. Par contre, les marmottons sont souvent plus sombres, presque noirs, puis ils ont une taille différente, ils sont plus joueurs. C'est très joli d'observer les marmottons.
Les marmottons, je présume, c'est les bébés, non?
Oui, ouais, c'est okay. Les bébés pendant 2 ans à peu près, on dit les marmottons.
D'accord.
Ils ne sont pas très farouches et c'est ce qui fait qu'il n'y en a qu'un petit pourcentage qui survit parce que même quand le guetteur crie, ils oublient complètement de s'abriter dans un terrier. Ils continuent à jouer, à flairer une fleur, etc. Donc, oui, exactement. Exactement, j'ai observé ça plusieurs fois. Vous vous approchez à 2 mètres, ils vous regardent, puis ça ne les dérange pas. Oh là là, cache-toi vite, mon petit. Hein?
Est-ce qu'on peut les garder chez nous comme animal domestique?
Alors, je me souviens, c'était en 61, je suis passé au col du Lautaret, il y avait une marmotte dans une cage pour les touristes. Donc oui, ça peut éventuellement s'apprivoiser, mais il ne faut pas le faire, ça n'a aucun intérêt. Les griffes sont quand même assez performantes, hein, les griffes, surtout des pattes de devant, c'est pour creuser des terriers de plusieurs mètres dans l'alpage avec des pierres. Donc, et puis les incisives, hein, si vraiment on ennuie la bébête, elle peut vous faire comprendre qu'il vaut mieux la laisser tranquille. Hein.
Bien sûr. Ouais.
Ça doit être protégé aussi quand même par la faune sauvage. On ne détient pas un animal sauvage.
Oui, plus maintenant, disons. Plus maintenant.
On va garder comme mascotte pour Fréquence Mystère quand même. Hein.
Pourquoi pas enfin, tout au moins pour Briançon. Après, Manosque ou...
On est en trentaine peut-être.
C'est un autre climat.
Que mange-t-elle?
Alors, elles sont presque totalement herbivores. Leur organisme est fait pour manger des tiges, des fleurs... Pas à 100%. On a vu des marmottes croquer quelques sauterelles si elles en avaient envie. Bon, je sais bien que dans des endroits où on va les visiter officiellement, les gens leur donnent des biscuits, etc. et elles ne refusent pas. Mais leur système digestif n'est pas adapté à ça. Voilà. Il y en a même qui leur donnent du chocolat, je crois. Ça semble leur faire plaisir, mais elles ne doivent pas.
Pour leurs dents et tout.
Elles ne doivent pas manger ça.
Voilà. Bien sûr, hein, s'ils sont des herbivores. Hein.
Ah oui.
Et comment chassent-elles leur. Comment creusent-elles leur galerie et où?
Alors, ce sont les pattes de devant qui sont assez puissantes. Ce sont des pattes assez courtes qui creusent. Alors, elles choisissent bien l'endroit des galeries. D'abord, par rapport à leur territoire, puisque ça, chaque groupe a son territoire, et fait bien comprendre aux groupes voisins que c'est un territoire nourricier qu'il vaut mieux pas s'aventurer chez le voisin. Oui, il y a toute une série de cris modulés différemment, selon que c'est un cri d'accueil, un cri de plaisir, un cri d'avertissement, etc. Donc, lorsque vous passez devant la sortie d'une galerie en montagne, s'il n'y a pas de terre fraîche, c'est que c'est une galerie abandonnée. S'il y a une terre fraîche, c'est qu'elle est en cours de creusement et elle est habitée, tout au moins la nuit. Donc, les pattes de devant creusent, pas n'importe où, souvent sous un rocher. Sous un rocher parce qu'en sortant de la galerie, le guetteur va se mettre sur le rocher et observer tout le territoire. Pas toujours. Hein. C'est pour ça qu'il faut se méfier l'été quand les herbes sont hautes. Vous mettez le pied dans un terrier de marmotte. Bonjour l'entorse, hein, parce que vous ne voyez absolument pas. Il vaut mieux rester sur sur les sentiers. Et les pattes de derrière, tout simplement, ce sont des sortes de pelles et ça fait sortir la terre jusque devant l'entrée de la galerie où vous avez tout un monticule de terre, de pierre, etc. Voilà.
Est-ce qu'ils utilisent les mêmes galeries pour hiberner ou ils font encore une autre?
Alors, pour hiberner, c'est une galerie de plusieurs mètres, très spéciale, avec des élargissements qui vont servir de chambre, entre guillemets. Par contre, sur le territoire, il y a toute une série de galeries courtes pour se mettre à l'abri.
D'accord. Ouais.
S'il arrive un chien, s'il arrive un aigle, s'il arrive un promeneur, hop, elles savent qu'à moins de 10 ou 15 mètres, il y a la galerie d'abri. Et là, il y en a pas mal. Hein.
Où elles peuvent ressortir à plusieurs endroits. Alors, dans le champ.
Certaines galeries communiquent, mais... souvent, c'est uniquement, uniquement la galerie d'abri sur 2 mètres ou quelque chose comme ça.
Et pour la reproduction, comment ils font?
Alors, c'est très court.
Ouais, okay.
C'est 15 jours, fin avril.
C'est tout.
Oui.
Dans toute l'année.
C'est tout. Dans toute l'année. Wow. Après, les dames sont tranquilles, si on peut dire.
Oui.
donc, les femelles fécondées, c'est, la gestation, c'est 5 semaines. Hein, 6 semaines. Mais ensuite, elles vont allaiter très longtemps, les marmottons, qui vont dépendre de la maman pendant quasiment 1 ou 2 ans, à la fois pour apprendre à vivre, pour apprendre la sécurité. Quelles herbes on peut manger, quelles herbes il vaut mieux ne pas toucher, etc. C'est tout un apprentissage familial.
Et combien de marmottons il peut avoir ?
2 en moyenne, quelquefois 3, mais normalement 2.
D'accord.
Normalement 2. Et semble-t-il tous les 2 ans, peut-être okay. pas chaque année.
Et le mâle vit avec eux après ou ils se séparent ?
Non, ça forme vraiment des groupes solidaires pour des okay. raisons de protection, ouais. pour des raisons de sécurité. Ce sont des groupes solidaires avec un ou plusieurs guetteurs qui ont leur rôle spécifique pendant que la famille... Entre 9h et 11h du matin, déguste des herbes, il y a toujours un guetteur qui est là pour... Alors, il ne faut pas dire que la marmotte siffle. Son gosier, entre guillemets, ne lui permet pas de siffler. Ce sont bien des cris. Mm-hmm. Ce sont bien des cris. Voilà.
Et comment se protège-t-elle des prédateurs ? Donc, justement, elle crie ?
Par la cache. Surveillance. Et par le fait de pouvoir courir très très vite dans l'herbe pour rejoindre une galerie. Voilà.
Une fois qu'elles sont prises au piège, de toute façon, elles ne mordent pas.
Alors, on ne les piège plus. Ça a été le cas dans les siècles
précédents. Non, mais par
précédents,
une proie.
Mais... Ouais. Bah, si l'aigle met ses serres puissantes dans son dos, ça lui bloque les nerfs de la colonne vertébrale et elle ne gigote plus. Hein. Et le renard, même chose. Le renard, va, par sa gueule, il va la prendre soit près du cou, soit un peu plus bas, et il l'emporte. Hein. Le renard emporte toujours ses proies. Par contre, les fouines ou autres peuvent très bien les saigner sur place.
J'ai une petite question, peut-être pas une très bonne question, mais est-ce qu'on peut manger les marmottes ?
Alors, on les a mangées pendant des siècles.
D'accord.
Il paraît que c'est une viande assez succulente, si elle est bien préparée. Je ne sais pas en fonction de l'âge, parce qu'elles peuvent vivre 15 ans, hein, 15 ans à peu près.
C'est pas mal.
En réalité, très peu arrivent à 15 ans. La vie est tellement risquée en montagne que très peu arrivent à 15-17 ans. Ah oui, pendant des siècles, ça a été une des bases de la nourriture des montagnards.
D'accord.
Alors, soit ils les piégeaient en été, soit ils les déterraient en hiver. Ils repéraient l'entrée de la galerie d'hibernation, ils creusaient la neige et ils les déterraient. Alors là, quand elles sont en hibernation, elles ne bougent pas. Donc, ils creusaient 50 cm, 1 mètre, ils tombaient sur la chambre de repos, et là, ils emportaient. Donc, ça a été très, très... Il y a eu énormément de prélèvements par l'homme pour la fourrure. C'est une fourrure qui protégeait très bien du froid, donc les montagnards s'en servaient, bien sûr. Mm-hmm. Pour la graisse. La graisse, surtout en début de saison, en octobre, novembre, elles sont très grasses et ça donne une viande assez onctueuse. Et puis la graisse de marmotte servait à soigner beaucoup de plaies, de rhumatismes, etc. Ça a été pendant des siècles un médicament très recherché.
Wow. Donc, on n'utilise plus, hein. J'ai jamais vu
non,
graisse de marmotte.
Elles ne sont plus chassées ou piégées.
Ils sont protégés ou c'est alors, juste que nos goûts ont changé un peu ?
Oui, et puis la sensibilité a changé.
Ouais.
Donc, après, la protection d'un pays à l'autre, d'un département à l'autre, il faut voir s'il y a des arrêtés, des décisions.
Et ils vivent dans d'autres pays que la France ?
Oui. Ouais, les Alpes jusqu'à l'Autriche.
D'accord.
Alors, Pyrénées espagnoles, je ne sais pas, mais côté français, elles ont été réintroduites depuis 50-60 ans. Hein, c'est pas ancien. Autrement, ce n'était que les Alpes. Et puis, un petit peu... Alors, j'ai entendu dire qu'en Haute-Loire, tout autour du Mézin, on l'avait On en avait introduit des groupes et que les bergers étaient fous furieux parce que les vaches arrivaient à se casser les pattes dans les galeries et elles ne connaissent pas ces bêtes. Alors, faudrait pas le dire, hein, mais enfin, il y a quelques bergers qui ont la gâchette facile quand ils voient une marmotte pour protéger leur troupeau. D'accord. Voilà. Mais dans le 43, hein, pas ici.
Bon, Laura, il est 9h36. On a une autre question pour clôturer.
On va faire un peu de poésie pour finir.
Le petit acrostiche, hein, L-A, M-A-R, M-O-D-T-E. La marmotte est la fée des alpages fleuris, artiste en galerie, où ses frayeurs s'apaisent. Museau au vent, œil aux aguets, sous la falaise, au soleil matinal, roux, vif et bien nourri, roulent dans la rosée les joyeux marmottons. Mais au moindre danger, on se cache d'un bond, oyant le cri strident du guetteur en éveil. Tout au long de l'hiver, la grasse boule brune tient la vie ralentie dans un profond sommeil, en changeant de terrier lors des nouvelles lunes.
Oh. C'est super, j'aime bien les marmottes, c'est très intéressant, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas.
Oh, c'est très sympathique, ouais. C'est rongeur.
Il ne reste plus qu'à t'emmener à la montagne aux marmottes.
Oui, exactement.
Voilà. Et on rappelle qu'on ne nourrit pas les marmottes.
Non, il vaut mieux pas.
Et en plus, avec le chocolat, non.
Mais non, c'est pas, la marmotte, elle ne met pas le chocolat dans le papier d'alu.
Première partie, on a parlé de marmottes et on va changer, toujours dans la nature, on va parler mélèzes.
Donc d'où vient le nom des mélèzes?
Alors, le mot français ne vient sûrement pas du latin, puisque c'est larix decidua, d'où larch en anglais, d'où larice en italien. Alors, mélèzes, j'ai lu une explication un petit peu poétique. Ce serait peut-être la couleur de miel des mélèzes à l'automne, c'est-à-dire la couleur que nous avons en ce moment. Mm-hmm. Mais peut-être y a-t-il une autre explication. Il faut toujours se méfier dans l'étymologie des mots.
On n'en trouve que dans les Hautes-Alpes?
Alors, on en trouve un petit peu en Savoie, on en trouve dans d'autres montagnes, mais le département des Hautes-Alpes, c'est 40% de tous les mélèzes français. Donc c'est vraiment
c'est
spécifique. Après, il y a l'Ubaye dans le 04, le Mercantour, il y a de très jolies pentes de mélèzes dans l'arrière-pays niçois, mais toujours en altitude. Mais vraiment, on pourrait dire, c'est l'emblème de la montagne, la haute montagne des Hautes-Alpes.
Quelles sont leurs particularités?
Alors déjà, il leur faut beaucoup de lumière. Même s'ils sont souvent à l'ubac, ils aiment bien un air sec. Ils surmontent à la fois le froid, la sécheresse et surtout, ils montent à 2500 mètres. 2500 mètres, il y en a à 2005 au-dessus du Granon. C'est ce qu'on appelle une espèce pionnière, c'est-à-dire qu'il peut gagner du terrain en haute altitude tant que le poids de la neige ou des vents trop tempétueux n'empêche pas sa croissance. De toute façon, c'est une croissance très lente. Après, ça donne des troncs qui peuvent atteindre 30-40 mètres de haut, très droits, tout simplement la recherche de la lumière.
Oui, c'est... Et comment s'adapte-t-il au climat d'altitude?
Alors, des racines profondes qui leur permettent de tenir lors des tempêtes. Et surtout, c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles. Et c'est très précieux pour cet arbre parce qu'il est en train de perdre ses aiguilles. Je me promenais en montant vers le hameau de Fréjus ou Goudissart ou autre. On est dans une pluie d'aiguilles. Le moindre souffle de brise, on a cette pluie d'aiguilles très douce, hein, très douce au toucher. Ça fait un tapis brun par terre. Et ensuite, il y a un tapis brun sur les premières couches de neige, brun roux. Donc, l'arbre, à partir de fin octobre, n'ayant plus d'aiguilles, il supporte parfaitement une neige, même une neige collante, ses branches ne vont pas casser. Il supporte les tempêtes un vent assez violent, l'arbre va se courber, mais il ne risque pas de se casser. Et il supporte aussi le givre. Alors le givre et la glace sont toujours plus dangereux pour les arbres parce que c'est très lourd. Et donc ça peut casser les branches, on le voit sur les autres conifères. Le mélèze, lui, tient le coup.
Parfaitement adapté. Hein.
Oui, oui, mais il a été favorisé, planté par l'homme, hein, parce mm-hmm. que c'était pendant longtemps les mâts de navires hein, ou des charpentes très longues, comme c'est un bois très solide.
Mm-hmm. Il retient les routes aussi sur les.
Alors, non. Disons que oui, il peut être utilisé comme cela, mais il tient bien les pentes. Il tient bien les pentes grâce à ses racines assez profondes et ça évite, ça limite les glissements de terrain.
Que voit-on en sous-bois ?
Alors, c'est très intéressant et c'est pour ça que les montagnards des Hautes-Alpes avaient favorisé le mélèze sur les pentes qui regardent vers le nord. Parce que le sous-bois est herbeux. C'est une magnifique pelouse. Sauf s'il était trop sec, mais c'est une magnifique pelouse, de telle sorte qu'on peut faire pâturer des bovins, des caprins, des moutons, dans une herbe souvent de 30-40 cm, et les aiguilles étant très fines, elles laissent passer la lumière. À partir de là, la pelouse se régénère après chaque pluie, et il y a donc le pâturage sous le mélézin. Ce qui n'est pas possible avec les autres conifères.
Okay. Est-ce un bois utile à l'heure actuelle ? Parce qu'avant, donc, il servait au mât des bateaux.
Oui, alors, il n'y a plus les radeliers qui descendaient la Durance jusque dans le Baronne pour les chantiers navals. Oui, c'est un bois de charpente, c'est un bois pour les clôtures, pour les bardeaux sur les anciennes toitures. Pour faire des gouttières, pour faire des parquets. À l'intérieur, c'est très joli parce que cette couleur orange est magnifique. En plus, ça a une odeur très douce. C'est un bois quasiment imputrescible car imprégné de résine. Les anciens lavoirs dans les hameaux de montagne étaient en mélèze. Les décorations de balcons étaient en mélèze. C'est à la fois très joli, très résistant et... il a et il est toujours très utilisé. Et d'ailleurs, il faut faire quelques coupes de temps en temps parce que les jeunes mélèzes ne peuvent pousser qu'au soleil. Donc si le bois est trop touffu, les jeunes mélèzes ne pousseront pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit, dès qu'on prend une piste en montagne, on voit les jeunes mélèzes sur le talus de la piste. C'est là qu'il y a du soleil.
Ah, oui, c'est vrai. On ne pense même pas, mais maintenant, oui.
Et quel problème rencontre-t-il ?
Alors, il peut y avoir la foudre. J'ai vu la foudre tomber, c'était le 30 juin dernier, sur un magnifique mélèze le long du télécabine de Serratier. L'arbre a complètement explosé. Il y avait des morceaux à plus de 20 mètres. Donc, la foudre, maintenant, sur le nombre de mélèzes, c'est quelque chose de rare. Après, si l'arbre est blessé, soit par une tempête, soit par l'homme, toute blessure fragilise le tronc et permet à toute une série soit de champignons, soit d'insectes, de s'introduire sous l'écorce et de fragiliser encore plus l'arbre. Mais dans l'ensemble, c'est un arbre... assez résistant.
Ils vivent combien de temps, cet arbre ?
Alors, on dit jusqu'à 500 ans.
D'accord.
En réalité, l'homme gère les plantations. Mm-hmm. Je regarde les cernes, c'est-à-dire les petites taches, les cercles alternativement clairs et foncés, ça vous donne l'âge de l'arbre. Bon, lorsqu'un mélèze est volontairement abattu par l'homme, il a entre 100 et 150 ans.
D'accord.
C'est déjà,
pas mal.
Un bel arbre. Mm-hmm. Et,
bel âge.
Oui. Mais il pousse très, très lentement. Et disons qu'à 30 ans, il n'a qu'1,50 m. Hein.
D'accord.
C'est une pousse très lente, comme tous les arbres en haute altitude. Le sapin pousse plus vite, mais il est plus bas. On avait parlé pour le pin sambro cet été, hein, qui pousse encore plus lentement. Voilà.
D'accord.
En ce moment, leur couleur est magnifique.
Eh oui.
Et ils perdent leurs aiguilles, comme on l'a dit tout à l'heure.
C'est une rareté. Alors, botaniquement, comment ça se passe? Il vient un moment où l'arbre décide de se séparer de son feuillage, parce que son feuillage, ses aiguilles, seront ou seraient un handicap pour la neige, pour la période de neige et pour les tempêtes. Donc, l'arbre crée une séparation entre la tige et l'aiguille tombe, et comme avant cette séparation, la photosynthèse s'est arrêtée, la chlorophylle devient inutile, donc elle disparaît, et on voit tout simplement les pigments qui étaient sous la chlorophylle mais qu'on ne voyait pas.
D'accord.
Voilà le mécanisme simplifié.
Je pensais que ça séchait.
Oui, ben, ça sèche à partir du moment où il y a la séparation avec la tige, il n'y a plus de sève qui peut nourrir l'aiguille. Hein. Donc, bien sûr, ça va sécher.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les aiguilles?
Alors, j'ai lu qu'autrefois, on les utilisait comme litière pour les bergeries, parce qu'au fond, il n'y a pas énormément de paille en montagne. Hein. Les terres à céréales sont très rares. Donc, ça a été utilisé un petit peu, mais de nos jours, non. C'est juste joli. Par contre, l'intérêt, c'est que ce n'est pas un bois qui donne un humus acide. Donc, il maintient un sol ni trop basique, ni trop acide. Le sol sous les mélèzes reste avec une fertilité limitée, mais enfin, c'est bien meilleur que les sapins, les épicéas, etc., qui donnent un humus très acide.
D'accord. Il nous reste un petit 8 minutes.
On a une dernière question. Comment expliquer que deux arbres côte à côte,
alors,
soit l'un jaune et l'autre vert?
J'ai encore vu ça plusieurs fois en montant là jusqu'à 1900 mètres avant-hier. Vous avez deux arbres, voilà. Même âge. Leurs troncs sont à 2 mètres de distance. Donc c'est le même sol et le même microclimat. Donc ils seraient frères, si on peut dire. Il y en a un qui est totalement vert et l'autre qui est soit tout jaune, soit il a déjà perdu ses aiguilles. L'un n'est pas malade et l'autre en bonne santé. Hein. Alors, ce sont des recherches scientifiques récentes qui ont été faites en Allemagne qui disent ceci. L'arbre, il faut imaginer, il n'a pas un cerveau humain, bien sûr, mais l'arbre pilote sa vie tout de même. Donc, début octobre, le mélèze va faire un pari sur le proche avenir. Vous avez le mélèze qui va décider de garder ses aiguilles 3 semaines ou 4 semaines de plus. Ça fait vivre l'arbre, la photosynthèse fonctionne et il va engranger pour l'hiver des sucres, des sels minéraux, etc. dans le tronc et dans les racines. C'est un pari, parce que s'il arrive une grosse couche de neige collante, plusieurs branches vont casser. Et l'arbre voisin, à 2 mètres, le frère quasiment jumeau, va lui décider qu'il serait peut-être plus prudent de se déshabiller un peu plus tôt. Bon, les réserves ont été faites pendant l'été, de toute façon, on recommencera au printemps. Et donc, il décide de perdre ses aiguilles plus tôt que le voisin. C'est une sorte de pari et ça peut être gagnant dans les deux cas ou ça peut être perdant. Voilà.
Et voilà.
C'est très original, mais c'est une explication scientifique qu'on ne connaissait pas il y a 30-40 ans et qui vient d'études de forestiers allemands d'il y a quelques années.
Oui, on ne pense pas que les arbres vont réfléchir.
Non, on ne peut pas dire qu'ils réfléchissent. On ne sait pas très bien où est le pilotage de la vie de l'arbre. Certains disent c'est dans les bourgeons, d'autres disent c'est peut-être une des épaisseurs de l'écorce. Enfin bon, de toute façon, l'arbre vit en symbiose avec le sol, avec des champignons, avec toute une série d'insectes. C'est tout un écosystème, il n'est pas tout seul. Mais on ne peut pas dire que l'arbre prévoit, on ne peut pas dire qu'il a prévu l'hiver à telle date, non.
Comme on a la chance d'avoir cette belle nature autour de nous ici.
Oh oui, que c'est beau.
Ouais, et j'imagine chaque fois que vous venez ici, ça vous fait respirer encore.
Le bon air de la montagne.
Bon, il nous reste un petit 4 minutes, un autre
on
poème.
Oui.
L'acrostiche de service, M-E-L-E-Z-E-S. Mélèze qui grimpait la pente ensoleillée, égayant de vert clair, l'âpre et sombre rocher. L'ombre n'est qu'à demi, sous la fraîche ramée, et le manteau d'aiguille adoucit le marché. Zélé peintre des temps, ta parure de feu en ces derniers beaux jours, sous l'intense ciel bleu, signale l'arrivée de l'épais manteau blanc.
Wow, c'est beau. Un grand merci.
Merci de votre accueil.
Un grand merci. Vous pouvez revenir quand?
Eh bien, je remonterai 15 jours ou 3 semaines en avril.
En avril?
Et puis après, je suis là du 15 juin à début septembre.
Pas avant avril?
Non, parce que je n'ai jamais commencé les sports d'hiver. Alors à mon âge...
D'accord, ouais, comme moi, vous n'êtes pas seule. bon, ouais, un grand merci pour tout, quoi. C'est vos poèmes, votre connaissance de notre belle région. Ouais.
Oui. Voilà. C'est un plaisir toujours renouvelé et je souhaite...
Je sais que vous êtes quelqu'un très actif, vous faites pas que la radio ici, vous faites un peu la radio un peu partout. un grand merci pour toutes vos émissions et votre temps.
Et l'hiver le plus dynamique et le plus agréable possible à toutes et à tous.
D'accord. Et donc, j'ai choisi Jean Ferrat,
la montagne.
Attention, c'est l'Ardèche. Ce ne sont pas les Alpes.
Okay.
C'est l'Ardèche.
Okay. Ouais, okay.
Mais ça monte à 1300 mètres. Hein.
Bon. Bonne journée à tous et un tout un grand merci.
Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdre et manger la tombe de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire, que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce